Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bienvenue sur RTL. Bonsoir, cher Thomas.
Bonsoir, Sidonie, je suis content. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas prononcé le mot primesautier.
Oh, c'est très joli, c'est chic.
C'est joli, non, primesautier.
Je vais essayer de le replacer une fois dans la soirée.
Ah, ça
on
peut
prend
être
les paris.
Un défi dans votre émission sur W9. Salut les curieux, on attend vos questions, vos réactions au 3210 sur RTL.fr ou sur Twitter avec le mot dièse, le hashtag La Curiosité RTL. Ce soir, on vous emmène aux États-Unis qui sortent de la crise et qui redeviennent le pays des rêves. Saviez-vous par exemple que la Nouvelle-Orléans est le nouvel Hollywood, que la patronne de General Motors, comme son nom l'indique, que c'est une patronne, est une femme. On va vous présenter cette Amérique New Look. Et puis saviez-vous que l'encyclopédie est née grâce à des femmes éclairées, que la maîtresse de Voltaire, par exemple, corrigeait ses textes. On doit beaucoup aux femmes qui tenaient salon au 18e siècle. On va vous raconter pourquoi.
RTL.
Croque-mort, un métier sans concession, sans fleurs ni couronne.
Jusqu'à 22h.
Il faut avoir la gueule de l'emploi et l'âge d'oraison. Elles sont funèbres.
La curiosité est un vilain défaut.
Évitez quand même le service après-vente.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Vous avez reconnu Pascal Praud, on l'écoute tous les matins sur RTL. Oui, éviter le service après-vente. En tout cas, nous sommes de plus en plus nombreux en France à souscrire des contrats obsèques. Et on a eu envie ce soir de vous présenter celui qui s'occupera si bien de vous. Ce sera le dernier à vous tenir la main, mais vous ne le verrez jamais. Ben non, vous serez mort, bien sûr. Ce soir, dans La Curiosité, on a invité un croque-mort. Bonsoir, Guillaume Bailly.
Bonsoir.
Bonsoir.
Sincère condoléance, c'est la phrase que vous prononcez le plus dans votre métier ?
Assez souvent. On évite de dire bonjour, c'est toujours malvenu aux pompes funèbres, on ne sait pas. Il y a un débat dans la profession à ce propos.
Ah, bonjour est un mot banni.
Oui, puisqu'on souhaite une bonne journée aux gens qui rentrent dans l'agence, alors que souvent, ce n'est pas le cas.
Alors, qu'est-ce que vous leur dites ?
Messieurs, dames, tout simplement,
c'est
toute sobriété, avec un petit signe de tête.
Parce que ça vous est souvent arrivé d'avoir des gens qui étaient qui réagissaient mal à un bonjour, disant comment vous pouvez me dire ça ou. Ou c'est juste logique de pas démarrer une conversation quand on est croque-mort par un bonjour.
C'est logique de pas démarrer une conversation. Alors c'est vrai qu'après c'est un réflexe parce qu'on est des gens polis et bien élevés.
Faut éviter le ça va. Ça va?
Oui, voilà.
Ça c'est pas possible. Aussi,
voilà, ou comme une collègue dans mon livre qui part en week-end, qui croise une famille dans le funérarium dont elle s'occupait, qui leur dit bon week-end à lundi. Ouais. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des grands moments de solitude.
On a beaucoup de fantasmes sur les croque-morts. On vous a sous les yeux, alors on peut vous voir sur RTL.fr bien entendu, mais pour ceux qui nous écoutent qu'à la radio, entre guillemets, vous ressemblez à un homme normal en fait. Vous êtes quand même un peu habillé en noir.
Oui, mais c'est parce que...
Vous avez une veste noire, un jean noir et un t-shirt, je vois du rouge, c'est du sang, non ?
Non, pas du tout. Non, c'est simplement, si vous voulez, que j'aime pas les magasins de fringues. Et le noir, c'est pratique, ça va avec tout. On est sûr de pas commettre de faute de goût. Donc vraiment, ça n'a rien à voir avec la profession. C'est de la pure fainéantise.
Vous ressemblez tous, les croque-morts ? Vous avez tous un peu le même look, comme ça, sobre ?
Non, moi j'ai une amie qui travaille dans un funérarium, qui s'habille en rose fluo, le soir après le travail, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Pour compenser, c'est ça ?
Peut-être, allez savoir.
Pourquoi vous avez choisi ce métier, Guillaume Bailly ? Comment on choisit d'être croque-mort ? D'ailleurs, ou agent des pompes funèbres, parce que c'est aussi l'autre nom de votre métier.
Oui, tout à fait. J'ai envie d'être solennel. Ce n'est pas moi qui ai choisi ce métier, c'est ce métier qui m'a choisi. Non, plus sérieusement, je suis tombé dedans totalement par hasard, comme 99% de mes collègues. Moi, c'était, je cherchais du travail, je suis rentré dans une agence intérim, et on m'a dit, on a une mission d'une semaine dont personne ne veut aux pompes funèbres comme porteur. Bon, pourquoi pas.
Porteur de...
Porteur de cercueil, c'est la dénomination du poste de quelque part manutentionnaire, si on peut dire, manutentionnaire de mort aux pompes funèbres. C'est le poste sur le terrain, celui qu'on voit porter les cercueils, porter les fleurs, mais qui va aussi brancarder les défunts ou s'occuper de la maison funéraire.
Et vous l'avez assumé tout de suite, ce nouveau métier, ou vous avez mis un petit peu de temps à en parler à vos proches, à vos amis?
Je l'ai assumé de suite, j'ai pas trop eu le choix, puisque mes proches me voyaient partir le matin en costume cravate et rentrer le soir avec des poches sous les yeux de fatigue, parce que c'est quand même bien physique. Donc j'ai dû avouer que je travaillais. c'était compliqué.
Et c'est bien vu d'être croque-mort dans l'entourage, on pense quoi de ce métier ?
Ouais, il a du boulot, il est pas au chômage, donc voilà, non.
C'est non mais à un dîner, par exemple, on demande souvent les métiers. Vous faites quoi ? Vous dites quoi vous ?
Alors au début, je disais que j'étais astrophysicien, mais je suis tombé sur des matheux
qui s'y connaissaient, c'est ça ?
Qui s'y connaissaient, donc évidemment, j'ai pas tenu 30 secondes. Après, pendant une période, j'ai dit que j'étais chômeur, pas parce que j'ai honte de mon métier de croque-mort, c'est simplement que quand vous dites à un dîner, je suis croque-mort. Les gens ne vous lâchent plus. Plein de questions. Soit ils s'en vont, soit ils vous lâchent plus.
Un peu comme nous ce soir, quoi.
Voilà.
Mais nous, on va rester, vous inquiétez pas.
mais vous, j'ai fait exprès de venir. Oui. Quand vous êtes à une soirée avec des amis, vous venez d'enterrer des gens pendant 10 heures, façon de parler, bien sûr, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'expliquer pendant 5 heures comment ça se passe après.
Tiens, d'ailleurs, le mot croque-mort, ça vient d'où ? C'est parce qu'on croquait les doigts de pied des morts, c'est ça, pour vérifier qu'ils étaient bien plus de notre monde ?
Alors ça, c'est une légende populaire qui dit qu'on croquait les doigts de pied des morts pour vérifier qu'ils étaient bien morts. Si un jour vous croquez les doigts de pied de quelqu'un qui est dans le coma et qui se réveille, allez faire homologuer le miracle à Rome. Hein. Non, ça n'a jamais été le cas. En fait, ça vient des épidémies de peste en Europe au XIIe siècle, sauf erreur de ma part. Les morts étaient jetés dans la rue puisqu'on croyait que c'était les morts qui transmettaient la peste. Et les agents municipaux, enfin en général des repris de justice ou des clochards réquisitionnés pour le faire, se servaient de bâtons munis de crochets pour charger les morts sur leur petite charrette.
D'où croque-mort.
Donc on disait qu'ils crochaient les morts, d'où croque-mort.
Vous publiez mes sincères condoléances, les plus belles perles d'enterrement aux éditions de l'Opportun, Guillaume Bailly. Quel est votre quotidien ? Quel est le quotidien d'un croque-mort ? Ce soir, on pousse la porte d'une agence de pompes funèbres sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Guillaume Bailly, vous êtes croque-mort ou plutôt et même agent des pompes funèbres. Alors pour nous, évidemment, c'est un drôle de métier. Pour vous, c'est votre routine, votre quotidien. Comment s'est passé ce premier jour dans une agence de pompes funèbres ? Vous vous en rappelez du tout premier jour de votre première mission ?
Oui, je me rappelle bien. En fait, ça a été un mélange de formation parce que on avait besoin de moi très rapidement. Hein, j'ai appris très rapidement à porter un cercueil, à le soulever, les postures, parce que évidemment, on fait pas ça n'importe comment. Et un petit peu de mise dans le bain, parce que c'est vrai qu'on a tellement de gens qu'on voit passer dans le métier qui arrivent le matin, qui repartent le soir et qui reviennent pas le lendemain, que l'ambiance était plutôt à...
Les candidats, il y a beaucoup de candidats pour être croque-mort, mais finalement peu de gens restent.
Voilà.
Pourquoi ils ne restent pas ? Qu'est-ce qui les effraie ?
Plein de choses. En général, on a beaucoup, là c'est la grande mode, on a beaucoup de petits jeunes qui arrivent, qui ont vu des séries à la télévision, où forcément c'est tout propre et ça ne sent rien. Dans la réalité, c'est pas ça du tout.
Et dans la réalité, c'est quoi alors justement, Guillaume Bailly, le métier de croque-mort ?
C'est une ambiance particulière autour des gens en deuil, évidemment. C'est parfois la misère humaine, hein. Dans certains cas, faut pas se voiler la face. C'est parfois des odeurs pestilentielles, ou simplement la petite odeur de la mort qui n'est pas si désagréable que ça, mais qui est omniprésente et qui est un petit peu obsédante.
C'est quoi la petite odeur de la mort ?
C'est impossible à définir, mais on la reconnaît quand
on a l'habitude de fréquenter
quand on a l'habitude, ouais. Quand on la sent, on la reconnaît instantanément.
Et du coup, vous avez besoin d'en rire aussi ? Si vous publiez ce livre sur les plus belles perles d'enterrement, c'est parce qu'il faut dédramatiser, forcément ?
Alors, ce livre, c'est autre chose. J'ai pas envie de vous vendre ma psychanalyse à bon marché, donc le livre n'est pas une catharsis. Mais c'est vrai que pour faire ce métier, il faut avoir un certain sens du recul. Et le recul et le sens de l'humour marchent en général main dans la main. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir oublier et donc en rire. Pas rire des morts dont on s'occupe, ouais, mais rire de la mort en général.
Et dès la première semaine de travail, puisque vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous êtes venu à ce métier par hasard en entrant dans une agence d'intérim, il y a eu déjà des rires, cette ambiance-là, parce que vos collègues déjà avaient fait ce travail de prise de distance.
Oui. En fait, je me suis retrouvé à la salle de pause, à la machine à café avec mes collègues, et j'ai été frappé du fait que j'avais fait J'avais occupé plein de postes différents auparavant, j'avais beaucoup cherché ma voie, et j'ai été frappé par le fait qu'en fait l'ambiance à la machine à café d'une entreprise de pompes funèbres était identique à celle de n'importe quelle autre entreprise. J'avais vendu des remorques et des abris de jardin ou des voitures sans permis, et c'était la même ambiance à la machine à café, simplement plutôt que de parler de l'essai calamiteux d'une voiture sans permis qui s'était terminée dans un platane, on parlait de telle famille qui avait eu telle réflexion.
Alors justement, c'est quoi votre quotidien pour bien qu'on imagine quand vous poussez le matin la porte de votre entreprise de pompes funèbres? Vous êtes croque-mort, Guillaume Bailly. Qu'est-ce qui vous attend? De quoi est faite votre journée?
D'un gigantesque point d'interrogation. Ah. Non, c'est vrai qu'en général, on a des journées qui sont... On ne sait pas de quoi sera faite la journée, puisque la mort a la fâcheuse manie de ne jamais prendre de vacances et de ne pas travailler aux heures ouvrables.
Mais de ne pas prévenir.
Voilà, donc si on n'a pas de cérémonie qui est prévue, parce que là, effectivement, on sait que cet après-midi, on sera en cérémonie ou qu'on sera en remise d'urne, etc., on attend qu'une famille pousse la porte de l'agence ou que le téléphone sonne pour qu'on aille chercher un défunt sur son lieu de décès. Et donc, c'est l'inconnu. Ça peut être une personne âgée décédée paisiblement dans son lit, partie prématurément à l'âge de 107 ans, comme on m'a dit une fois. Mais ça peut être un accident de la route avec de multiples victimes. Parce qu'en France, ce sont les pompes funèbres qui évacuent les défunts du lieu de décès. Donc ça peut être drôle ou dramatique.
Alors, c'est des questions un peu basiques, hein, mais c'est vrai que moi, je connais pas bien votre quotidien. Une fois que vous avez récupéré le corps chez la personne, vous allez où avec le corps et votre voiture des pompes funèbres?
Alors, tout dépend. Soit la personne est décédée, par exemple, dans une maison de retraite ou dans un établissement hospitalier. Donc là, on l'amène où la famille nous dit de le conduire, soit dans une maison funéraire ou à son domicile. Ou bien, si c'est sur ce qu'on appelle... une réquisition de police, on peut être amené à le conduire à l'institut médico-légal pour pratiquer une autopsie. Sinon, par défaut, c'est dans une maison funéraire ou dans l'institut médico-légal également, ou la morgue d'un hôpital selon les règlements locaux en vigueur.
Est-ce que ce métier de croque-mort, Guillaume Bailly, c'est aussi un poste d'observation de la société?
C'est le poste d'observation idéal de la société sous un certain angle. C'est vrai que sauf erreur de ma part, personne n'échappe à la mort. C'est arrivé une fois
même
dans
si
l'histoire.
Même si les géants d'Internet voudraient bien y échapper, mais bon, puisqu'ils ils rachètent des entreprises qui travaillent sur l'immortalité.
Alors il y a un bruit qui court comme quoi c'est arrivé. Non, il n'y a pas de mal. Il paraît que c'est arrivé une fois dans l'histoire, il y a 2000 ans, à certain Jésus. On en parle encore, donc vous voyez, c'est pas courant quand même. Oui. Donc c'est vrai que tout le monde, du riche, du pauvre, du gentil, du méchant, entre guillemets, passe par les pompes funèbres. Et on a l'observatoire idéal de toutes les catégories sociales, de toutes les personnalités, de toutes les relations familiales, parce que parfois c'est explosif.
Bah justement, Guillaume Bailly, on va raconter avec vous, vous êtes croque-mort, les plus belles perles d'enterrement, c'est tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h. I believe
I can fly. La curiosité est un vilain défaut. I believe I can
touch the sky. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On rigole avec la mort ce soir sur RTL et vous allez comprendre tout de suite pourquoi on a fait ces choix musicaux avec André Facetta. Guillaume Bailly, vous êtes croque-mort. Oui. Allumer le feu, par exemple, c'est un souvenir particulier?
Alors, allumer le feu, c'est la demande de collègues qui travaillent dans un crématorium qui en ont marre des petits malins qui s'imaginent que mettre allumer le feu lors de leur départ en crémation, c'est original et rigolo. Alors qu'en fait, tout le monde le fait et c'est d'assez mauvais goût.
D'accord.
Donc, mais c'est voilà, trouver autre chose.
Ah oui, c'est volontaire, oui, c'est volontaire. C'est bon.
Les gens d'humour quand même.
Oui, les défunts laissent des dernières volontés de plus en plus pour avoir une cérémonie à leur image. Donc, ceux qui aiment bien rire se disent, je vais faire une dernière blague.
Et I believe I can fly, c'est quoi l'histoire? Je crois que je peux voler.
Alors, celle-là, elle est un petit peu plus dramatique. On était à une cérémonie d'obsèques d'un jeune homme et sa famille avait choisi cette chanson parce que c'était sa chanson préférée. Ses parents ne parlaient pas du tout anglais. Donc, il y a eu un malaise dans la salle lorsque I Believe I Can Fly est passé. Donc, je me suis tourné vers le collègue et je lui ai Rappelle-moi de quoi il est mort déjà ? Ben, il s'est défenestré.
Mais non.
Si.
C'est terrible.
C'est horrible. Et alors, on a, je crois qu'on a entendu un peu le pont de la rivière Kouai aussi, si je ne me trompe.
Oui. Alors, c'était un monsieur qui était un grand fanat de cinéma, qui avait laissé sa playlist idéale pour sa cérémonie civile. Mmh. Et il avait mis le pont de la rivière Kouai. C'est très bien, c'est un film qu'il aime beaucoup. Le problème, c'est qu'il l'avait mis au début de la cérémonie. Donc, on devait rentrer avec le cercueil, l'air solennel, sur l'air du pont de la rivière Kouai.
On imagine la scène. Je vous vois en train de porter le cercueil sur cette musique.
Le pont de la rivière Kouai. Il y a aussi des vaudevilles.
Et là, vous réussissez à garder votre calme et à ne pas partir en fou rire quand même.
On en a parlé avec les quatre collègues qui portaient les trois autres collègues qui portaient le cercueil, puisqu'on était quatre. On a tous un tissu cicatriciel assez important à l'intérieur de la joue, à force de se la mordre pour ne pas rire. Oui, c'est un métier qui exige de donner de sa personne.
Dans votre livre « Mes sincères condoléances, les plus belles perles d'enterrement » aux éditions de L'Opportun, il y a une histoire assez étonnante aussi sur deux femmes qui se croisent, mais qui ne devraient pas vraiment se croiser.
Non, elles ne se croisent pas fort heureusement, mais il y a l'épouse légitime et la maîtresse du défunt qui, a priori, savait vivre. Hein. Bon, il a perdu le mode d'emploi sur la fin, mais il savait vivre. Donc, la maîtresse fait une visite à son défunt amant et la femme légitime arrive. Donc, panique, catastrophe, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il a fallu retenir la femme légitime, le temps de faire sortir la maîtresse par la partie technique. Donc, comme un vaudeville, les portiques claquent, les sorties d'un côté, les entrées de l'autre. Pareil, la même chose. On serait cru au théâtre. C'est parfois un théâtre, ce métier, d'ailleurs. Hein.
Et vous avez des demandes particulières, Guillaume Bailly, vous qui êtes croque-mort. On vous a demandé un jour une réduction dans un cadre un petit peu particulier.
Oui, un prix. Alors, je vous plante le décor.
Un prix, oui, parce qu'une réduction, vous pouvez croire que c'est une réduction.
Oui, mais c'est à dessein que j'emploie cette expression, vous allez voir.
Voilà. Une réduction, ouais, c'est vrai que c'est un terme technique, hein, mais ça, c'est autre chose. Donc,
c'est quoi, c'est pour les familles qui n'ont pas les moyens de payer un cercueil suffisamment long, c'est horrible. Ça incite à l'humour noir dans cette conversation.
Une réduction de corps, c'est simplement récupérer les ossements pour les placer dans ce qui s'appelle un reliquaire pour gagner de la place dans les tombes. Voilà, vous savez tout. Bon. Mais là, c'était un monsieur qui avait été appelé par la gendarmerie parce que son frère était décédé dans l'incendie de sa maison. On était au milieu de la nuit. Mmh. Donc prévenu, le monsieur vient sur place. On lui demandait pas forcément, mais il vient sur place. Il est 4h du matin, la maison fume encore, les pompiers sont là, les gendarmes sont là, la nuit clignote en bleu gyrophare. Nous, on est là aussi. Il y a une bâche sur la pelouse un petit peu à l'écart avec les restes de son frère et de sa belle-sœur en dessous. Vous imaginez la scène. Mmh. Et là, le monsieur contemple le spectacle impassible, il se tourne vers nous, il nous dit « Bon, ben, je passerai vous voir demain matin pour régler les obsèques, ce sera une crémation, mais vous me ferez un prix parce que le travail est déjà bien entamé, là. »
Mais non.
Si.
C'est pas possible, j'y crois pas.
Donc les gens sont drôles et parfois horribles aussi, alors.
Les gens sont drôles et parfois cruels, ils s'en rendent peut-être pas compte, hein, ça dépend de l'histoire de chacun, mais les gens sont drôles.
Et puis, évidemment, les familles réagissent de façon multiples et variées. Dans votre livre, il y a l'histoire de deux fils qui ont drôlement réagi à la mort de leur maman, c'est ça ? Ils arrivent dans quel état ?
Ils avaient bu le verre de l'adieu, le avec un S et verre avec un S. Enfin, bon, ils étaient complètement bourrés, hein, pour parler clair. Ils ne tenaient plus debout que parce que c'était à la mode. Leur famille, leurs épouses et leurs enfants les encadraient pour qu'ils tiennent debout. Leur maman était décédée d'une cirrhose du foie, donc a priori, c'était une famille où on aimait beaucoup la dive bouteille. Et eux sont arrivés ivres morts au cimetière. Mmh.
Mais quand je vous entends, Guillaume Bailly, parler de ces morts et de ces funérailles, il n'y a pas une sorte de secret, pas un secret médical, mais un secret professionnel à respecter. Parce que là, s'il y a des familles qui se reconnaissent, par exemple.
Alors ça, c'est une super question, je vous remercie de me l'avoir posée. Vraiment.
Bravo, Sidonie.
Non, parce que c'est la question
que j'attends. Je crois que vous
étiez fâché. Non, c'est la question dont je rêve depuis le début. Oui, il y a un secret professionnel et j'ai fait en sorte que les familles en question ne puissent pas se reconnaître dans les histoires. Pour la simple et bonne raison que
vous avez tout inventé.
Non.
Vous avez mélangé des histoires.
Ces histoires sont vraies. Simplement, je les ai transportées. J'ai eu la chance de travailler sur plusieurs régions. Je les ai transportés dans une région particulière. Donc, si j'explique qu'une histoire se déroule à Brest dans telle rue, vous pouvez être sûr qu'elle a eu lieu n'importe où, sauf à Brest. Et j'ai fait aussi attention à échanger avec des collègues, à faire en sorte que ces histoires aucune de ces histoires n'est unique. Ce sont des cas de figure qui me sont arrivés à moi, mais qui sont arrivés aussi à d'autres. Donc, une famille qui lit une histoire dans le livre pourra se dire, ah, il m'est arrivé quelque chose à peu près similaire, mais ne pourra jamais se dire, eh, c'est moi dont il parle. C'est impossible. J'y ai veillé.
On continue de flirter avec les morts et la mort avec notre croque-mort, Guillaume Bailly, sur RTL.
Vous écoutez RTL. RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La mort est votre métier, Guillaume Bailly. Vous êtes croque-mort depuis plus de 20 ans. Avec vous, on découvre le quotidien des pompes funèbres. On a pas mal d'anecdotes qu'on peut lire dans Mes sincères condoléances, les plus belles perles d'enterrement aux éditions L'Opportun. On avait envie que vous nous parliez de ces funérailles de chiens. On peut enterrer des chiens?
Ouf.
De manière un peu officielle?
Ouf. Oui, je vous donne la papate et je vous explique. Oui, tout à fait. On a fait des funérailles de chiens. Alors, il m'est arrivé cette histoire. Il est arrivé l'histoire à un collègue. Et en fait, l'histoire en deux parties, j'ai fait un mix des deux. Il y a la famille que j'ai reçue et les obsèques que le collègue a procédé pour un autre chien. Mais oui, une famille qui est venue me voir, très, très riche et très éplorée, pour m'expliquer qu'elle voulait faire les obsèques d'un certain monsieur Ouf. C'était vraiment le nom du chien, Ouf. Donc moi j'étais très étonné, je demandais qui était ce monsieur Ouf et j'ai fini par comprendre qu'il s'agissait d'un caniche, je crois, abricot, si ma mémoire est bonne.
Donc, royal, le caniche.
Oui, peut-être.
Vous êtes fort en caniche, vous.
Ah bah oui.
Oui, non.
Bah, il y a toutes les tailles en caniche, franchement. On va faire une émission sur les caniches.
Ah oui, parce que j'y connais rien, moi, en caniche. Abricot royal.
Alors, ne m'invitez pas pour l'émission sur les caniches. Je vous avoue que je serai pas le meilleur spécialiste du genre. Hein.
Bon, donc, il s'appelle Ouf.
Oui, il s'appelle Ouf. Et sauf erreur de ma part, donc, on a procédé à la mise en bière dans un cercueil scellé, puisque l'idée de sa maîtresse était de le faire mettre dans un cercueil pour qu'il soit inhumé avec elle dans sa tombe lorsqu'elle viendrait à quitter ce monde. Et en attendant, Monsieur Wouf était dans un cercueil scellé, comme on peut en utiliser pour les transports à l'étranger, avec un filtre à carbone. Et il doit, à l'heure où je vous parle, toujours servir de chevet, à moins que cette dame ne soit partie entre-temps. Mais il devait lui servir de chevet en attendant.
Le filtre à carbone, c'est pourquoi ?
Pour simplement que les gaz de décomposition ne fassent pas éclater l'enveloppe étanche à l'intérieur.
Ah, j'ai bien fait de vous demander.
Oui, n'est-ce pas ?
On est très
content. Je suis sûr que vos éditeurs sont ravis là.
Non, on aime bien être précis.
Est-ce qu'il y a des cérémonies où les familles ou les proches règlent des comptes entre guillemets en disant la vérité sur le défunt, en disant il était comme ci ou comme ça ?
Alors oui, je pense que vous pensez à la même histoire que moi, à savoir cette famille qui rentre dans une agence de pompes funèbres, qui tombe sur mon collègue Hervé, et qui explique, voilà, on voudrait faire un hommage civil pour notre père qui est décédé, seulement voilà, papa était un abruti et on tient vraiment pas à le cacher. Donc voilà, coup de fil catastrophé d'Hervé qui a du coup appelé, d'habitude il fait ses cérémonies tout seul, mais là il a appelé des collègues en renfort, dont moi, avec la même question. T'as pas une idée, qu'est-ce qu'on fait ? Donc il a réussi par ricochet à la fin à goupiller sa cérémonie de telle façon que les gens en sortant de la salle se sont dit bon, c'est peut-être un abruti mais il a quand même bien élevé ses enfants.
Des gens qui tombent dans les trous par exemple ou les caveaux, ça existe, Guillaume Bailly ?
On essaie de l'éviter au maximum, mais c'est arrivé, ouais. Moi, je me rappelle de cette petite mamie qui était à l'enterrement de sa sœur. Les obsèques étaient finies, tout le monde partait au café. On était en train de régler les derniers détails, donner les papiers administratifs aux enfants de la défunte. Et puis, je ne sais pas quelle mouche l'a piquée, elle s'est faufilée, elle a voulu faire un coup de crosse par-dessus le tas de terre fraîchement béné qui se trouvait à côté de la tombe pour voir une dernière fois le cercueil de sa sœur et elle a été le voir de très très près. Ouais. De très très près, donc elle s'est cassée.
Elle s'est pas blessée quand même, si.
Si, elle s'est fracturée.
Elle n'est pas morte.
Non, elle n'est pas morte. Tout va bien. Elle s'est plus ou moins bien remise, mais bon, elle a eu les fractures habituelles à cet âge-là. Et surtout, elle a fêlé le cercueil de sa sœur en tombant dessus, quand même. Ça a été un beau choc.
Non, on est mort de rire, mais justement, les fous rires, Guillaume Bailly.
Il faut mieux en rire. Hein.
Oui, il vaut mieux en rire. Les fous rires, c'est fou, parce que quand on parle de choses comme ça, comme on a envie de rire, ça chatouille dans le ventre. Ça arrive souvent lors des cérémonies. Ou dans les cimetières ou lors de crémation, des gens qui explosent de rire.
Parmi les proches,
ouais,
oui,
ça
pas
arrive.
Parmi les morts, oui.
Non, mais parce que.
Merci.
Merci, mais détiens. Non, mais franchement, Sidonie. Non, mais parmi les croque-morts, ça arrive souvent, vous nous l'avez raconté, mais parmi les proches.
Alors, non, parmi les croque-morts, ça arrive après à la machine à café, on arrive à se retenir, mais on a de l'entraînement.
Bah oui,
après, parmi les proches, oui, ça arrive des fois qu'on pique des fous rires. Hein. En général, c'est quand le défunt laisse une blague que je vous disais tout à l'heure, certains défunts laissent une blague, un petit mot rigolo à lire aux obsèques, ou c'était un comique, donc un membre de la famille fait un texte un petit peu rigolo. Il n'y a rien de mal à lire aux obsèques, à rire aux obsèques. À partir du moment où le défunt était un joyeux de rire, était un bon vivant, qu'il aimait rire, rire à ses obsèques, c'est aussi une façon d'évoquer sa mémoire, donc il n'y a rien de honteux là-dedans. On n'est pas obligé de faire la tête aux enterrements.
Et vous avez eu des loupés, des morts qui n'étaient pas vraiment morts, embarquer une vivante ou un vivant au lieu en pensant qu'il est mort. Ça vous est arrivé ça ?
Non, mais ça a failli.
Racontez-nous ça.
Oui, on arrive un soir avec un collègue. Donc, on avait été appelé par la famille pour un décès. On n'en savait pas beaucoup plus. La famille nous attendait sur place. Donc, on arrive dans la campagne bretonne, dans une petite maison. Une petite maison à l'ancienne avec la pièce principale qui servait à la fois de salon, séjour, cuisine et chambre. Donc la famille nous accueille, on dit bonjour. C'était des gens, ils étaient traumatisés par le décès, un petit peu timides. On a voulu les rassurer, vous inquiétez pas, on sait ce qu'on fait. Donc on rentre tout notre matériel dans le salon. On débarque, on s'équipe, on met nos gants, nos blouses. La famille ne dit rien en se disant... Il s'installe, ok. Et donc là, on se retourne vers la défunte, petite mamie qui était dans le lit, qui bougeait pas avec la couverture jusqu'au menton. Là, le fils nous dit, mais attendez, là, c'est maman, elle dort, mais le défunt, c'est papa, il est dans la pièce à côté. Voilà, la petite mamie, terrassée par l'émotion, s'était endormie, elle dormait paisiblement, et nous, on a failli l'embarquer, donc... Voilà, des fois ça va me donner l'impression qu'on sait trop bien ce qu'on fait, on finit par passer pour des guignols.
Allez, dernière question, peut-être forcément moins drôle, mais donc évidemment il y a toutes ces scènes drôles, ces anecdotes que vous racontez, et les moments d'émotion les plus forts pour vous, dans votre métier de croque-mort ?
Il y en a plein, ce sont toujours des moments où on se blinde, on essaie de prendre du recul, mais ce sont toujours des moments où on est pris par surprise, où on se relâche. Je pense par exemple à cette histoire qui est dans le livre de cette petite fille qui, aux obsèques, à la fin des obsèques, alors que tout le monde est terminé, tout le monde est en train de quitter le cimetière, échappe à la surveillance de son père, va se planter sur les bords de la tombe et dit « Sors de là maman, c'est plus drôle maintenant ». Voilà, et là, on a été pris par surprise, personne ne s'y attendait. On a la petite boule dans la gorge, quoi, forcément.
La boule dans la gorge et des rires aussi en vous lisant et en vous écoutant. Merci infiniment, Guillaume Bailly. Mes sincères condoléances. Les plus belles perles d'enterrement, c'est aux éditions de L'Opportun.
Vous écoutez RTL.